Nous sommes le lundi 9 mai sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb au programme de ce soir. Et ben du super-héros, des chiens-chiens, des légendes et de l'art basé sur la BD. Mais je vous en expliquerai plus tout à l'heure. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. Ce soir, je suis tout seul, mais je devais pas. Parce que par une astuce habile et mécanique qu'on appelle un enregistreur, je devais vous faire profiter des voix de certaines personnes. Et suite à un petit souci technique, je ne vais malheureusement pas vous faire profiter de ces voix. Mais ce sera l'occasion de broder pour pouvoir vous parler un petit peu de tout ça de manière un peu plus efficace. Enfin bref, je ne vais pas tergiverser pendant plusieurs minutes. On va commencer directement avec un petit peu de jeunesse. Est-ce que vous connaissez Olivier Supio ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? Si ? Bon, si vous connaissez pas Olivier Supio, faut peut-être y aller un petit peu, puisque c'est du local, c'est de l'Angevin, et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait en règle générale. Et là, en fait, on a la sortie du tome 2 de Klebs, une série en strip humoristique. C'est des doubles strips. Ouais, je sais pas si je peux dire double strip, puisque c'est deux sur une demi-page. Et ça nous raconte la vie de chiens qui ont une sacrée vie. C'est l'illustration, on va dire, en BD, de l'expression « une vie de chien ». Alors effectivement, en termes de scénario, je ne vois pas forcément comment vous expliquer plus amplement ce que c'est, mais du coup, on suit des chiens dans leur vie quotidienne, et ce sont des chiens qui sont globalement très idiots, qui sont un petit peu bas de plafond et qui ont ils sont un petit peu bêtes, hein, soyons complètement honnêtes. Donc ce sont des petits gags qui fonctionnent tous, après ça dépend de votre niveau d'humour. Bon, c'est plutôt destiné à la jeunesse. Les chiens, je sais pas si vous les connaissez, ils ont pas forcément un esprit très relevé. Il y a pas mal de choses à base de caca, à base de blagues un petit peu basiques, mais qui fonctionnent. Ça nous permet de profiter du trait d'Olivier Supio, qui est un petit peu plus cartoon dans cette version, parce que les chiens ont tous un certain style un petit peu particulier. Il y a des côtés un petit peu déformés et très caricaturaux qui marchent très très bien. On a quelques pleines pages qui nous permettent de profiter un petit peu plus grandement du trait artistique d'Olivier. On note cette prédominance et cette affection particulière que peut avoir Olivier sur les monstres sur certaines pages, donc c'est toujours un bon moment. Voilà, donc quoi vous dire de plus à part que Klebs, le tome 2 qui s'appelle Il était une fois dans l'os, le deuxième tome vient de sortir aux éditions Soleil Pop. Allez-y, c'est bien, c'est plutôt pour les enfants, hein, si vous cherchez une BD très profonde avec une grosse réflexion, pas vraiment ça qu'il vous faut, mais n'hésitez pas, c'est vraiment très agréable à lire. Donc voilà, je redonne les refs, c'est Klebs, tome 2, dans les éditions Soleil Pop, et c'est d'Olivier Supio, à qui je fais un coucou s'il le m'entend. De quoi pouvons-nous parler ensuite? Alors j'ai des sujets drôles, des sujets pas drôles. Allez, un petit peu de légèreté, même si le sujet n'est pas forcément ultra léger non plus. Je voulais parler d'un manga qui est un manga un petit peu original. Alors déjà, est-ce que vous connaissez Osamu Tezuka? Oui, alors c'est peut-être un petit peu plus normal si vous connaissez Osamu Tezuka que Olivier Supio. Un petit peu plus connu, non? Alors celui qu'on surnomme bêtement et simplement le dieu du manga. Voilà. C'est un auteur japonais à qui l'on doit énormément de choses en termes de narration. Si vous avez, comme moi, un certain âge, vous avez certainement croisé certains de ses personnages au détour de dessins animés ou d'adaptations télévisuelles, ce qui était plutôt agréable. Donc, quoi vous dire ? Il y a une collection, alors je ne sais pas si c'est une collection, c'est en tout cas un manga qui vient de débuter aux éditions Vega, qui est un label des éditions Dupuis. Et le but avoué était de pouvoir regrouper dans une seule œuvre tous les personnages d'Osamu Tezuka, ou au moins une grande partie. Et bien c'est chose faite avec cette ouvrage qui s'appelle Team Phoenix de Kinney Ruiz, qui avec un certain talent a réussi à créer quelque chose qui soit à la fois de l'hommage, de l'adaptation et un reboot de toute l'œuvre d'Osamu Tezuka. Alors toute non, parce qu'il n'y a pas tout, mais dans Team Phoenix on va retrouver des personnages connus comme une version un petit peu différente d'Astro, le petit robot, Princesse Saphir, le roi Léo et l'enfant aux trois yeux. Il y a des personnages que je ne connaissais pas. Alors l'œuvre de Tezuka étant quand même assez importante, j'ai pas tout lu, je connaissais certaines choses. Et là en fait on est dans un space opéra où les robots, ont fini par se délivrer du joug des humains et ont décidé de se venger. Leur liberté nouvellement acquise fait qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est détruire toute l'humanité pour se venger de l'asservissement qu'ils ont pu subir par les humains. Et du coup, on se retrouve à avoir deux choses. D'un côté, l'union robotique avec toutes les machines conscientes, et de l'autre côté, l'alliance biologique qui scelle toutes les créatures biologiques pour éviter de se faire exterminer par les robots. Et puis on va avoir une personne qui va se détacher un petit peu du lot et qui va mener une résistance. Princesse Saphir. Princesse du Silverland, qui est une princesse qui se dissimule sous les habits de garçon à la base, puisque dans son monde elle ne peut pas hériter, puisqu'elle n'est pas un garçon, elle n'a pas le droit d'hériter de la couronne, donc elle se dissimule sous des traits masculins pour ne pas ébruiter pour ne pas avoir en fait à se cacher à jeter l'opprobre sur la couronne de son père. Donc ça rend vraiment très très bien, c'est hyper agréable à lire, le trait de Kinney Ruiz est vraiment top. Je vois pas quoi dire de plus, les personnages sont très charismatiques. Il a su faire évoluer des personnages comme on n'aurait pas imaginé de les faire évoluer, tout en les collant dans un univers de space opéra qui marche très très bien. Mention spéciale au Roi Léo qui a bien grandi, hein. Vous voyez Simba qui s'est beaucoup inspiré du Roi Léo, imaginez-le plutôt vers la fin du film Le Roi Lion, et puis vous aurez un piètre aperçu de ce que peut être Léo dans cet ouvrage Team Phoenix. Donc un vrai beaucoup de cœur, une vraie belle découverte qui permet vraiment de s'éclater, de donner envie à ceux qui ne connaissent pas de découvrir l'œuvre de Osamu Tezuka, sachant que ça n'empêche pas, hein, si vous n'avez pas toutes les références, c'est pas grave, vous allez pouvoir le lire d'une manière assez assez normal. Et c'est vraiment très agréable à lire, c'est très beau. Les personnages sont charismatiques. Mon mention spéciale à Saphir qui... je sais pas, on arrive à... Il y a une présence, il y a une prestance. Léo, pareil, c'est fabuleux. Enfin, vraiment, Kinner Ruiz a fait un très très beau boulot. Je sais pas si... si tout le monde est d'accord avec moi, en tout cas moi je suis d'accord avec moi et j'espère que vous, chers lecteurs, vous serez d'accord avec moi quand vous lirez Team Phoenix de Kieran Ruiz d'après Osamu Tezuka aux éditions Vega Dupuis. On va faire une petite pause musicale après ces quelques minutes et puis après on va parler d'une expo et puis d'une interview et d'une petit souci que j'ai pu avoir. Bon bref, on va faire une petite pause musicale avec une musique assez entraînante avec à base de pirates, à base de musique festive et de musique festive de pirates. C'est Hellstorm avec P-A-R-T-Y. Party Time sur le 101.5 de Radio G. C'est aussi la case de Seb. Il est 19h15 minutes et vous venez d'écouter Hellstorm avec Pirate Party Time, P-A-R-T-Y. C'est dur à dire hein, comme ça. Je vais pas vous raconter ma vie. Vous en avez absolument rien à faire, j'en suis sûr. Et puis si vous en avez quelque chose à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. lacaseseb.radioG-@gmail.com. Enfin bref. Donc Là, je fais des grosses excuses à quatre personnes à qui j'ai demandé de leur temps pour m'accorder une interview et auprès desquelles j'ai un souci technique qui fait que je n'ai aucun enregistrement. Ça me désole à un point, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, de vouloir consacrer du temps à des gens, que ces gens consacrent du temps à vous et que on puisse absolument rien faire. Donc je m'excuse auprès de Jérôme Dubois, Sain Park, Camille Lavaux-Benito et Lisa Mouchet qui m'ont accordé cette interview lors du vernissage de l'exposition Emanata, œuvre d'art imprimée, une exposition dont vous avez sans doute entendu parler plusieurs fois dans Topette, une exposition qui a lieu à l'Artothèque d'Angers, mais pas que. Ces gens-là m'ont été en rencontre, dédicace, visite, je ne sais pas comment je peux le dire, et ils m'ont permis en fait de découvrir cette exposition. Cette exposition est une exposition qui a été initiée par le ministère de la Culture, la DRAC, le ministère de la Culture, le CNAP, et la DRA, qui ont mis en place ce projet pour l'année 2020 de la bande dessinée. Ils ont proposé à plusieurs auteurs en fait de réaliser une grande œuvre, donc plusieurs auteurs de bande dessinée, une œuvre qui serait exposée dans certaines artothèques destinée à tourner, mais également à devenir à intégrer les collections des artothèques et à devenir disponible auprès. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quatre de ces artistes qui m'ont parlé de leurs œuvres, un peu de leur parcours, et je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ce que j'ai pu en avoir, ce que j'ai pu retenir de ces interviews, parce que je n'imprime pas mentalement complètement les interviews. Je vais commencer avec Lisa Mouchet qui a fait une œuvre qui s'appelle Trop d'indices. C'est une œuvre, comment l'expliquer ? C'est une sérigraphie, si je ne me trompe pas. C'est ça, qui est un très grand format, et sur lequel en fait on a des structures physique en trompe-l'œil avec de gros aplats. On a une espèce de rideau avec des maisons qui sont sur le rideau et qui est ouvert. Devant, on a une espèce d'arbre très stylisé avec une grande masse verte qui représente de l'herbe, des buissons, je pense. Et en bas, on a quelques cailloux avec une carte ouverte avec un trait. Et puis, à l'intérieur, on a une espèce de bulle avec un oiseau et quelques notes. L'intérêt en fait était de permettre aux gens de laisser errer leur tête et d'essayer de comprendre ce qu'ils voyaient. Une sorte de chasse au trésor, alors que peut-être il n'y a pas de trésor. C'est un petit peu ce que m'a présenté Lisa Mouchet en m'expliquant que cette œuvre-là était aussi peut-être le point de départ de son prochain travail qui allait peut-être être une sorte de chasse au trésor. Je ne vais pas en détailler parce que effectivement je ne me rappelle pas vraiment de tout, mais on avait cette œuvre un petit peu étrange qui allait venir. Une œuvre qui est aussi un petit peu différente comme son album Le mystère de la maison brume, où on découvre une maison à l'intérieur d'une structure, et il y a plusieurs protagonistes, il n'y a pas de texte, et en fait chaque personnage a un traitement graphique particulier. Alors vous voyez, c'est un truc qui est assez particulier, mais qui donne vraiment envie de découvrir cette histoire et qui oblige à s'investir très très fortement. On peut continuer avec Camille Lavaux. Camille Lavaux-Benito, qui elle a réalisé une œuvre qui s'appelle Lieu spolié. Camille a eu le prix de la révélation Angoulême de cette année au Festival de la bande dessinée, et pour son œuvre La vie souterraine, qui est publiée aux éditions Requin Marteau. Son œuvre est assez particulière puisqu'elle est issue et à l'origine de son ouvrage La vie souterraine. C'est une œuvre complète qu'elle a retravaillée dans un grand format en eau-forte pour pouvoir arriver à faire quelque chose de très très détaillé. C'est assez impressionnant. Parce que vous êtes devant une œuvre qui est, l'eau forte, il faut travailler en gravure à l'envers. Et après, c'est ça qui va permettre d'imprimer sur le papier quelque chose de plus poussé. Donc vous allez avoir dans l'ouvrage La vie souterraine, la même planche, mais avec des détails différents. Donc il faudra, si vous avez l'occasion de découvrir cette œuvre en Artothèque, prendre le temps de regarder par rapport à votre album et essayer de découvrir quelles sont les 7 erreurs qu'il peut y avoir, cette différence, parce que c'est pas des erreurs, hein, l'artiste ayant fait elle-même les deux, on peut pas vraiment parler d'erreurs, mais les 7 différences, voire plus, qu'il peut y avoir entre les ouvrages, sachant qu'elles sont excessivement proches de l'ouvrage d'origine. Et puis j'ai rencontré également Jérôme Dubois, un jeune homme dont on a déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Anne-Lie avait parlé de deux ouvrages qu'il avait pu faire, Cité Ruine et Cité Ville, deux ouvrages qui se répondent. Et on avait tout de suite été marqué par le côté très géométrique qu'on peut trouver chez Jérôme Dubois. Et son côté très... je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, les scènes parlent d'elles-mêmes. Ici également, on peut avoir un petit peu comme avec Lisa Mouchet, en fait, une œuvre qui va s'auto-parler toute seule, qui va nous transmettre les images qu'on veut bien vouloir lui impliquer. Et puis, l'œuvre de Jérôme Dubois, qui représente une espèce de... une entrée de magasin avec un panneau et une sphère étrange derrière, elle a une particularité. C'est que cette œuvre a été réalisée à plusieurs exemplaires pour pouvoir être dans chacune des artothèques, mais que chacune des œuvres va différer d'une artothèque à l'autre. Si la partie ancrage à l'extérieur est fixe, la partie couleur, qui est un dégradé de couleur sur l'espèce de sphère, va être différente d'une artothèque à l'autre. Jérôme m'expliquait que lui, il serait presque capable de... ou même il est capable de savoir à quelle artothèque est alignée quelle œuvre et quel passage, en fait, dans quel ordre celle qu'il voit a été faite, si c'est la première, la deuxième, la troisième. Et ça rend son travail très étrange. On a vraiment l'impression d'avoir un ovni qui s'apprête à aller faire ses courses au Carrefour Market du coin, au Franprix du coin, ou au Géant du coin, je sais pas. Je suis obligé de dire plein de marques parce que j'en ai dit une, enfin c'est pas grave. Et ça rend le truc très très immergent, très immersif, et c'est vraiment hyper hyper contemplatif, hyper impressionnant. Et puis, comme on parlait d'images géométriques, on a également une autre œuvre qui s'appelle Un pas, qui a été réalisée par Céane Park, qui a fait plus pas mal de fanzines et plus une œuvre pour enfants en termes de publication. Et là, c'est représente des têtes de toutes les couleurs, de toutes les formes, garçons, filles, un petit peu de tout, et qui représente en même temps le même personnage qui réalise un seul pas, un pas gigantesque. Et tout est lié. Il y a une espèce de grand lien de tableau qui relie tout ça. Et elle me confiait que c'est effectivement le seul et même personnage, un seul personnage unique qui réalise ce grand pas. En termes de technique, ce qui est rigolo, c'est qu'elle avait besoin, en fait, pour pouvoir dessiner ses formes, d'un gabarit, et qu'il a fallu qu'elle crée elle-même son gabarit hors norme pour pouvoir réaliser ses formes sur un format aussi grand. Le format en lui-même, il fait 70 cm sur 90 cm, donc je vous laisse imaginer, sortez une règle si vous avez besoin, mais ça reste un format qui est quand même assez, assez important, et c'est un format qui est pas... qui ne doit pas être facile à travailler. Emanata, c'est une exposition qui va permettre de découvrir ces 4 pépites, par exemple, mais pas seulement, puisqu'on va avoir d'autres artistes, hein, je ne vais pas tous les citer, mais on va avoir Pierre Lapolis, Loulou Picasso, par exemple, Philippe Dupuis, Sam Einstein, des auteurs qui sont très réputés ou un peu moins, mais qui ont eu cette opportunité de réaliser quelque chose, un travail graphique différent du travail de bande dessinée actuel et plus classique qu'ils ont l'habitude, et ce qui permet vraiment de créer une passerelle entre ces différents mondes qui sont le monde de l'art, on va dire dans son grand nom, et le monde du 9e art qui est pourtant tout aussi important. Et Manhattan, c'est une expo qui, j'ai trouvé l'expression intéressante, il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup d'opportunités entre la bande dessinée et d'autres médias, mais il y a toujours cette espèce de grillage en fait qui permet de voir à travers mais de ne pas le franchir. Et en fait, l'exposition Manhattan va complètement déchirer ce grillage pour permettre de franchir le pas qu'il y a entre la bande dessinée et l'art tel qu'on le connaît habituellement. C'est une exposition que vous pouvez découvrir à l'Artothèque d'Angers. C'est en accès libre, alors selon les horaires d'ouverture de l'Artothèque. N'hésitez pas à y aller. Si vous avez des petits, n'hésitez pas à y aller non plus, parce que ça peut être hyper intéressant de les amener à se questionner sur des œuvres comme ça qui donnent envie de voyager, de réfléchir. Et c'est vraiment super agréable. C'est une exposition que vous allez pouvoir découvrir jusqu'au 28 mai, qui après sera disponible en prêt, hein, si vous êtes adhérent de l'Artothèque. Je ne vous redonne pas les conditions d'accès à l'Artothèque, parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le site de l'Artothèque d'Angers. Mais sachez que pour un coût modeste, un abonnement modeste, et ben vous pouvez habiller votre chez vous avec des œuvres d'art. Pour une période limitée, puisque c'est du prêt, hein. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce genre de système. Donc voilà, l'art peut s'inviter chez vous pour une somme modique, et c'est vraiment très intéressant. Je vous redonne les dates. Alors, ça a commencé du 1er mars au 28 mai 2022 à l'Artothèque d'Angers. C'est gratuit, c'est l'exposition Emanata. Un beau projet. Qui permet de découvrir la BD autrement, et qui, à n'en pas douter, pourra avoir suscité des émules auprès d'autres auteurs ou d'autres collaborations de l'Artothèque. Je remercie encore les gens de l'Artothèque de m'avoir accueilli ce jour-là. Encore une fois, toutes mes excuses aux gens qui m'ont accordé les interviews. Je suis désolé. Si un jour on a l'occasion de se recroiser, n'hésitez pas à me faire signe que je puisse corriger et faire un nouvel enregistrement pour en reparler. Ce sera avec un grand plaisir, quoi qu'il arrive. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. On va pouvoir écouter un des morceaux de Mathieu Chédid, le M, et son dernier album, le titre, peut-être son premier titre de l'album, qui s'appelle Rivalité.
Si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence on s'invente des vies qui s'opposent. Au cœur du cœur de la nuit, le jour, au cœur du cœur de ma vie, l'amour, atome ultime dans un ultimatum, voilà l'homme. Yeah.
réalité, la première partie de l'intro du nouvel album de M. Mathieu Chélide. Un clip en deux parties hein, que vous pourrez découvrir sur YouTube ou sur ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours Seb au micro. J'espère que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Bon, peut-être que vous allez me détester, enfin, pour les quelques minutes qui viennent, puisque je vais vous rappeler à la dure réalité. Vous avez vu les transitions fabuleuses que je suis capable de générer dans cette émission, puisqu'on va parler d'un ouvrage que j'ai trouvé à la fois hyper intéressant, mais à la fois hyper déprimant. Il s'agit du Mirage de la croissance verte de Anthony Auffray dans la collection Octopus des éditions Delcourt. Alors, de quoi ça parle? Je pense que le titre est plutôt parlant. Il parle de la croissance verte et du fait que ce soit pas forcément une très très bonne idée. Alors, qu'est-ce que c'est la croissance verte? Eh bien, c'est... déjà, je vais vous mettre en condition. C'est un monsieur qui regarde en fait les infos va se rendre compte que y a des choses qui sont mises en place pour lutter contre le dérèglement climatique. Et à un moment, il y a un petit monsieur qui va sortir de nulle part, un monsieur qui semble avoir franchi un portail interdimensionnel, qui est un petit papy, et qui va lui dire que les informations que lui donne un certain président lors de la Convention citoyenne sur le climat ne sont pas tout à fait fiables, et on va pouvoir découvrir avec lui ce que c'est que la croissance, ce que c'est réellement que le PIB et pourquoi ces choses-là ne sont pas bonnes. Pour ça, il va utiliser une petite chose, un robot qui s'appelle PIB, un robot qui carbure au CO2, qui se saoule au pétrole, qui déforeste, qui dévaste un petit peu tout. Et on va plonger complètement dans un cours d'économie. Comme le dit à un moment le petit robot, il est pas poète, il est comptable. Ça résume beaucoup, en fait, ce que c'est que le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, si je me trompe pas, si j'ai bien suivi mes leçons. Et ça montre, en fait, l'indice que peut avoir la croissance d'une personne dans un pays donné. Et en fait, on va mettre en parallèle le PIB et plein d'autres données. On va mettre en place des schémas pour comprendre ce que c'est que le PIB et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal sur le long, sur le court terme. Du coup, on a vraiment un gros élément de réponse et on va vraiment nous guider sur ce que c'est. Quels sont ces modèles économiques, quelles sont les innovations technologiques qui peuvent porter ces innovations, ce modèle économique. Et puis surtout, dans notre monde, où le rapport du GIEC a été plus qu'alarmant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'il y a un modèle qui peut nous permettre de continuer de la croissance en protégeant notre planète? Et est-ce que ces modèles qu'on nous propose, ils ne sont pas complètement erronés, ou est-ce qu'ils ne vont pas nous mener à une autre perte en simplement nous biaisant sur la façon dont on peut se sortir de cette situation qui a l'air plutôt dramatique? C'est hyper intéressant. Alors, je ne vais pas dire que c'est pratique, que ce sera facile d'accès pour les enfants, mais on comprend beaucoup de choses. On a des diagrammes, on a des graphiques, on nous explique des personnes qui se sont penchées sur certaines thématiques liées au dérèglement climatique et puis à l'économie des énergies. Et c'est... Comment dire? C'est très déprimant, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de chance, qu'on ne va pas avoir beaucoup de possibilités de s'en sortir. Et c'est vrai que c'est très, très... on ne va pas dire que c'est alarmiste, parce qu'on est passé au-delà de l'alerte. On est passé au moment où on nous dit, écoute, tu as les deux pieds dans la lave, tu es en train de te brûler. Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment, il faudrait que tu réagisses si tu veux arriver à t'en sortir? Il y a un passage que j'ai trouvé très... marquant. Alors c'est graphiquement, on est sur quelque chose qui est là pour servir de support. C'est très mignon, il y a un côté gros nez, très rigolo, c'est plein de couleurs vives, tout est travaillé en aplat, et ça marche bien, hein, on est vraiment accompagné. Et il y a une scène où justement on a ces personnages-là qui nous illustrent en fait ce que c'est que le rapport en Meadows, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, Denis Meadows. Et on a ces gens très intelligents qui vont créer un modèle mathématique qui vont simuler le système tel qu'il est actuellement et voir où il peut aller. Alors ils intègrent la croissance économique, la pollution, la superficie, les ressources, la démographie, et puis il y a un mec qui dit « Bah ouais, mais l'ordinateur, il va mettre longtemps à calculer ça. » L'ordinateur, il fait « Non, j'ai fini. » « Ah, et alors, quelle est la réponse ?»« Bah, game over. » »« Bah, comment ça, game over ?»« Ouais, game over, vous voulez rejouer ?» Comme si, en fait, l'économie qu'on avait sur notre planète, bah, c'était un mode de jeu. Ce qui n'est pas vraiment le cas, hein. Je pense qu'un jeu où on va jouer l'avenir et l'avenir, il n'y a pas grand chose à dire de plus, bah, c'est pas forcément un jeu qui est très rigolo. Donc c'est très bien comme ouvrage, c'est très déprimant si vous réfléchissez à ce que vous lisez, c'est très déprimant si on se rend compte que bah, ça fait de nombreuses années qu'on devrait donner ce genre d'ouvrage à plein de gens, et c'est vraiment très très intéressant à lire. C'est drôle, c'est déprimant, c'est difficile à comprendre, mais en même temps c'est très clair, c'est très limpide. Donc c'est vraiment un super ouvrage. N'hésitez pas. Voilà, je redonne les références et puis après j'arrête de vous plomber le moral. Hein. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger peut-être. Je promets rien. Je vous redonne les références. Il s'agit du Mirage de la croissance verte d'Anthony Auffray. C'est deux éditions Delcourt de la collection Octopus. C'est un petit ouvrage que vous pouvez donner à beaucoup de gens. Et qui va leur apprendre beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Voilà, voilà. On va rester peut-être dans un peu plus de légèreté, mais on va parler quand même d'un sujet qui est important, qui n'est pas toujours simple. Je vais peut-être m'attirer les foudres de plein de gens, mais voilà. Parlons de la... C'est pas la transidentité. C'est vraiment, on va parler du problème du genre, de l'identité de genre et de toutes ces problématiques-là qui vont tourner autour. L'ouvrage en question, c'est un manga aux éditions Ototo dans la collection Mu, une collection qui est assez agréable puisqu'elle permet de poser plein de questions justement sur l'évolution de la personne, de la mentalité, de son genre, de sa sexualité, qui est vraiment une collection qui est très sympathique. C'est un ouvrage qui a été écrit par Kata Konayama et qui s'appelle Love Me for Who I Am. Comment dire ? Love Me for Who I Am, c'est une histoire qui est très simple sur le papier. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit, qui est dans un collège, collège ou lycée, j'ai un petit doute, bref, et il a un camarade dans sa classe qui s'habille en fille, mais bon, il est un petit peu efféminé, ça a l'air de passer, et un jour il se dit, bah tiens, ce camarade-là, il pourrait très bien travailler dans le maid café de ma sœur, où en fait les serveuses sont en fait des garçons habillés en filles, ce qu'on appelle les otokonoko. Et du coup, il lui propose de travailler là-dedans sans vraiment lui expliquer ce qu'est une otokonoko. Un ou une otokonoko, je ne sais pas. Et en fait, ce jeune garçon, bah, lui, ça lui va très bien, il aime bien apparemment s'habiller en fille, et il va commencer à vouloir travailler. Mais on va se retrouver avec un petit problème. C'est que les otokonoko se présentent en expliquant quels sont les otokonoko aux clients, à savoir des garçons déguisés en filles. Mais il faut savoir que le héros, Mugumo, qui est un garçon qui s'habille en fille, ne s'identifie pas ni comme un garçon, ni comme une fille. Alors c'est compliqué pour lui de se revendiquer otokonoko, et je ne veux surtout pas utiliser ce terme pour lui-même. Et c'est l'occasion de découvrir plein de diversité, de se dire qu'il n'y a pas que des garçons qui se sentent garçons, des garçons qui se sentent filles, des garçons qui se sentent ni l'un ni l'autre, des filles qui se sentent filles, des filles qui se sentent garçons, des filles qui ne se sentent ni l'un ni l'autre. Il y a encore plein de choses comme ça autour, et que c'est pas toujours aussi simple de ranger et de catégoriser les choses, les gens et les gens et les choses. Ouais, bref, c'est surtout des gens là, en l'occurrence. Désolé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les camarades de Mogumo qui travaillent dans ce café, les autres Otokonoko, ben, ont chacun une façon différente d'appréhender ça. On a une personne qui est gay, qui considère que s'habiller comme ça, ça lui permet de se faire plaisir, et puis d'assumer peut-être un peu plus sa sexualité. On en a une autre qui se considère comme étant une fille à l'intérieur, et puis on en a un qui fait ça parce qu'il adore se déguiser en cosplay, et que vraiment il adore ce côté, mais que lui, bah, il préfère quand même les filles, il n'y a rien qui l'en empêche. Et puis on a le héros qui a invité Mogumo à venir travailler dans ce café, qui va se découvrir des sentiments pour Mogumo. Mais pareil, il ne sait pas en fait ce qui l'attire chez Mogumo, ni comment présenter ses sentiments à Mogumo, parce que Mogumo est entre deux. Alors, ça aurait été super intéressant que j'aie des gens concernés, je pensais aux autres émissions qu'on peut avoir sur Radio G, pour approfondir ce texte-là, parce que ça aurait été hyper intéressant d'avoir des gens plus concernés que moi, puisque je suis bêtement bien dans ma peau. Je dis pas que ces gens sont mal dans leur peau, mais le genre qui m'a été assigné à la naissance a l'air de me convenir, hein, jusqu'à preuve du contraire, et d'avoir un avis différent sur cet ouvrage. Je pense que les personnes qui ne sont pas confrontées à des gens dont l'identité de genre et de sexe n'est pas en raccord vont pas forcément trouver ça simple à percevoir, ni à comprendre, ni à ingérer. J'avoue que c'est parfois pas évident, d'autant plus que le dessin, c'est un dessin qui est quand même assez girly, et on a... c'est pas une critique négative, hein, du bouquin, parce que le dessin est vraiment très classe et très très joli, très très fin, mais on a du mal parfois à imaginer que ce sont des garçons habillés en filles, puis qu'ils sont des traits très délicats. Alors, je veux pas dire que les personnes qui s'habillent en filles n'ont pas des traits délicats, qu'un garçon qui s'habille en filles forcément quelqu'un qui va se faire griller automatiquement, mais là ce sont principalement des adolescents, et ça brouille encore plus les pistes dans cette thématique. Mais l'ouvrage est extrêmement intéressant, ça pose plein de questions. C'est un tome 1, donc je pense que ça va permettre de approfondir encore un peu le sujet. Il y a un côté très shoujo avec une histoire d'amour quand même, mais ça va plus loin que ça. Ça pose des questions qui sont essentielles, à mon avis, et que des ados peuvent se poser sur leur propre identité, sur leur propre genre, dans cette période-là de leur vie. Donc c'est un ouvrage certainement à mettre dans toutes les mains. Donc voilà. Je redonne les références, il s'agit de Love Me For Who I Am, c'est de Kata Konayama, c'est publié aux éditions Ototo dans la collection Mu, une collection vraiment que je vous conseille, surtout dans cette période où les sujets d'identité et de mentalité sont des sujets qui sont assez prégnants. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. On s'en fait une dernière pause musicale avec Matt Bastard et Stand As One sur le 101.5 de Radio G. Everybody stand as one, we don't care where you come from, you'll never be alone. Hey, 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 everybody stand as one, we don't care where you come from. Be alone. Oh, can you feel it? It's coming from your mind.
attendu, mais c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier, les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à toutes ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey.
Jamais tout seul sur le 100.5 de Radio G, tant que c'est la case de Seb. C'était Matt Bastard et Stand As One, une musique que vous pouvez retrouver dans l'excellent film Zombilennium, adapté de la série d'Arthur de Pince. Ça, c'était gratuit. La série est très bien, le film est très bien. Donc voilà. Tip top top. Bon. Voilà, je fais tomber des trucs dans le studio. Bref, je me fais des blagues tout seul encore. Là, je vais vous parler de deux ouvrages complémentaires. On va aller du côté des États-Unis avec un peu de comics. Deux ouvrages qui sont disponibles tous les deux chez Urban Comics dans la collection Indies. Et je ne sais pas par lequel commencer. C'est deux ouvrages qui se complètent plus ou moins. On va commencer avec The Paybacks de Donny Cates, Geoff Shaw et Elliot Rahal. Vous verrez, c'est à peu près les mêmes auteurs hein, sur l'autre ouvrage, mais c'est vraiment très très bien. De quoi ça parle ? Alors, parler de The Paybacks, c'est hyper simple. Imaginez en fait que Batman ou Tony Stark, ce soit des gens qui n'aient pas vraiment beaucoup de sous à la base, mais qui ont tous les équipements que vous pouvez leur connaître dans leurs univers respectifs. Alors, vous allez dire, oui, mais comment ils ont fait ? Bah, ils ont fait comme beaucoup de gens quand ils veulent les choses, mais qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ont contracté un prêt auprès d'un monsieur. Donc du coup, tous les mois, ils payent en fait leur crédit avec les intérêts, bien entendu. Et puis, ils peuvent exercer une activité de super-héros avec les moyens qu'ils en ont. Donc ça, c'est un truc qui est très fréquent dans l'univers de The Paybacks. Et The Paybacks, c'est quoi ? En français, The Paybacks, c'est les impayés. Donc c'est le fisc des super-héros. En gros, c'est un groupe de super-héros qui, pour le compte du créancier ou du créditeur, j'ai un doute, d'un certain monsieur qui prête de l'argent, va aller voir des super-héros qui doivent de l'argent à ce monsieur en lui disant, écoute, t'as des traites de retard, on va saisir la Batmobile, on va saisir tes armures de Tony Stark, et puis si t'as toujours pas assez de thunes, on va te confier des travaux d'intérêt généraux, donc on va te mettre un bip qui va exploser sur toi si tu fais pas ce qu'on te demande. Et puis du coup tu vas bosser pour ton créancier. Et du coup c'est très très drôle parce qu'en fait c'est complètement décalé, c'est complètement référencé, c'est vraiment hyper agréable à découvrir. Il y a plein de personnages, graphiquement c'est très poussé. Il y a des personnages qui sont très très beaux, il y a des splash pages qui sont vraiment agréables. Les personnages sont complètement décalés. Je pense que c'est un ouvrage qui aurait été très drôle à trouver en version épisodique, en version souple, comme on peut les trouver aux États-Unis, puisque à chaque fois qu'un nouvel épisode, on représente les nouveaux personnages avec des petites phrases, des petites choses rigolotes pour contextualiser au maximum les personnages. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de parodies dans cet ouvrage. Le but, c'est vraiment de se moquer des ouvrages de comics de super-héros et de ce déluge de badassitude. Et vraiment, c'est très très fun, c'est très très drôle. Il y a des personnages qui sont complètement débiles, mais ça marche très très bien. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais effectivement, on suit au départ le groupe The Paybacks. Vous allez dire, à chaque fois, ça va être une nouvelle mission, ils vont récupérer de l'argent. Non, il y a un fil rouge vraiment sur tout l'ouvrage, qui rend le truc vraiment très agréable à découvrir. Et ça marche super bien. Donny Cates, c'est un auteur qui marche de mieux en mieux en fait dans le milieu du comics. J'ai déjà chroniqué quelques-uns de ses albums parce que j'aime beaucoup son côté gestion de la famille. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un dont la famille est au cœur de la narration. Et là, en fait, il va parler d'autres choses, il va parler de liens d'amitié, il va parler de liens un peu plus, on va pas dire différents, mais de liens vraiment, c'est autre chose, voilà. C'est drôle, vraiment c'est drôle, c'est violent, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a des passages avec des trucs un peu trash, mais du coup ça marche très très bien, vous allez retrouver des personnages qui sont des parodies d'autres super-héros, des super-héros qu'on n'aimerait pas voir, et puis vous allez également retrouver des petits bouts de super-héros que vous connaissez, forcément vous allez les reconnaître, et puis vous avez aussi Donny Cates qui a intégré d'autres super-héros de ses propres univers. On va retrouver des personnages de God Country, de Buzzkill, c'est vraiment super intéressant à lire, et en plus c'est vraiment très drôle, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis on a son album frère qui s'appelle Crossover, qui a un ton un petit peu plus sérieux. Ça s'appelle Crossover du coup, et là l'univers est un petit peu plus sombre. On a aussi beaucoup de références, mais là on est dans un univers où un jour il y a eu un crossover. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les comics, un crossover, c'est ce que vous avez pu voir dans les Avengers, par exemple. C'est-à-dire, on prend plein de numéros de comics, de personnages de comics différents, et on va tous les regrouper au sein d'une grosse aventure où ils vont pouvoir donner la pleine puissance de leurs moyens. Alors, pour rester dans l'analogie avec les Avengers, vous avez dû vous rendre compte que, quand ils se sont un petit peu bastonnés, ils ont un petit peu tout cassé dans New York, ou je sais plus où ça se situait. Et imaginez que dans l'album The Crossovers, ça s'est réellement passé. Et puis qu'il y a un espèce de sorcier qui a créé une espèce de bouclier gigantesque pour isoler tous les super-héros qui se tapaient dessus les uns les autres, excluant de fait les humains, et ostracisant les super-héros lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de cette bulle. Faut savoir qu'il y a un petit village à côté où les comics ont complètement disparu, sont devenus quelque chose de complètement nul et surtout de très, très censuré. Et il y a des gens qui pourtant aiment bien ça et aimeraient bien pouvoir continuer à en lire, mais ils peuvent pas. Et puis on a toujours peur que les gens un peu costumés, les gens qui font du cosplay, soient de vrais super-héros et créent de nouvelles catastrophes. Et puis un jour, on suit une jeune fille qui aime bien se déguiser en super-héros. On suit un vieux monsieur qui a un magasin de comics. Et puis on suit une petite fille qui, visiblement, n'est pas de ce monde. Et ces trois personnages vont essayer de faire retrouver la maman ou les parents de cette petite fille. Je ne vais pas vous spoiler, ça parle de plein de choses, ça parle de l'implication des super-héros dans une réalité, des dommages qu'ils peuvent causer, ça parle aussi des liens qu'on peut créer avec ce qu'on lit et ce qu'on est, et c'est vraiment très sympa. Il y a une petite astuce graphique qui marche, je trouve très très bien et qui est très agréable, c'est que les personnages de comics, qui sont pas des personnages de réalité à la base, même s'ils ils sont apparus lors de ce crossover, ils ont cette espèce de texture en point qu'on pouvait avoir sur les anciens comics, cette espèce de trame qui permettait de ressentir la couleur sans avoir besoin de faire un aplat complet, ni de faire des ombrages, et ça marche vraiment très bien. Voilà, c'est super cool. Ça, c'est un tome 1. The Paybacks, c'est une histoire complète, hein, c'est une reliure complète. Et Crossover, c'est un tome 1, donc il y aura des choses à suivre. Et pourquoi je vous disais que c'était deux œuvres frères, c'est que ben, les personnages de The Paybacks, vous allez pouvoir les retrouver dans Crossover, d'une certaine façon, et vous allez pouvoir découvrir qui ils sont, et comment ils interviennent aussi dans cet axe scénaristique différent. Pour vous achever et puis vous inviter aussi à l'acheter, sachez que bah, Crossover, jusqu'à mi-juillet de cette année, il est en tarif promotionnel, à un tarif défiant toute concurrence pour un bouquin de cette pagination, ce qui est plutôt agréable. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces deux albums. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à découvrir les autres albums de Donny Cates. C'est quelqu'un dont le talent d'écriture est vraiment très agréable, qui est capable de faire vraiment des choses originales et différentes. Et puis voilà, n'hésitez pas. Je vous redonne les références, c'est The Crossover et c'est Crossover tome 1 Kids Love Chains chez aux éditions Urban Comics collection Indies et The Paybacks toujours chez Urban Comics en collection Indies. Hop. On va attention. Et ben voilà. That's all folks. Et vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Je vais vous laisser en mauvaise compagnie avec... voilà. Et voilà, vous les avez reconnus. Ouais, c'est les Gremlins, des gens qui ont un gros bazar et mettent un gros bazar. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
Ah oui, 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 oui.
Je vous invite à télécharger le podcast sur le www.radio-g.fr. Il sera disponible dans quelques instants. Et puis, surtout avant de se quitter, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle case de Seb. Et puis, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Ha ha ha!